Je vais prier pour qu'on débute. Merci Seigneur Dieu pour cette nouvelle journée où tu nous accordes la vie. On reconnaît que si tu ne le permettais pas, si tu n'étais pas en action pour garder l'univers en mouvement et garder notre existence, garder notre souffle de vie, on disparaîtrait. Donc on t'en est reconnaissant. Une nouvelle vie où tu nous accordes de vivre et on te demande, Seigneur, d'être avec nous aujourd'hui, d'être avec nous spécialement pendant ce cours où on réfléchit à la création, à ta puissance, à ton intervention dans le monde. Dirige-nous par ton Saint-Esprit et bénis ce cours au nom de Jésus. Amen. Donc, on continue aujourd'hui le cours qui s'intitule « Ne vous conformez pas au monde présent ». Donc, c'est tiré du verset de Romains 12:2 où on est invité à regarder le monde, à étudier les différentes philosophies, les différentes vérités qui y sont enseignées, et à retenir seulement ce qui est bon, de savoir discerner ce qui est bien, ce qui est mauvais, ce qui plaît à Dieu, ce qui déplaît à Dieu. Donc, il y a plein de bonnes choses, comme on va le voir aujourd'hui dans notre étude sur les origines. Je pensais qu'on allait couvrir tout ce que je voulais parler aujourd'hui, mais finalement, ça va prendre une deuxième partie un peu plus tard, dans quelques semaines. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les origines de l'univers, qu'est-ce que la Bible en dit, qu'est-ce que la science en dit. Est-ce que c'est possible de réconcilier les deux ou pas? Quelles sont les erreurs aussi à éviter, à déceler? Il y a plusieurs questions qui nous viennent en tête lorsqu'on parle des origines. Depuis l'univers, est-ce qu'il a eu un début ou est-ce qu'il existe depuis toujours? Est-ce qu'il est éternel? Il y en a beaucoup qui l'ont cru dans l'histoire. Est-ce que c'est le cas? S'il a eu un début, est-ce qu'il est le résultat du hasard ou est-ce qu'il a été créé? Comment ça se fait qu'il y ait de la vie sur Terre? Est-ce qu'il peut y en avoir ailleurs dans l'univers? Il y a tellement de séries, de films qui montrent la possibilité d'être vivant sur d'autres planètes, d'extraterrestres. Et on peut se demander, est-ce que c'est possible? On va commencer par mettre la Bible en perspective ou étudier la Bible versus la science, qui est souvent en confrontation, malheureusement. Les chrétiens vont utiliser la Bible parfois pour attaquer les athées. Et les athées vont utiliser la science pour attaquer les chrétiens. Donc, ça fait en sorte que la Bible et la science sont mis en opposition, souvent. Qu'est-ce que c'est que la science, selon le dictionnaire Larousse? C'est pas toujours la même définition qu'on trouve dans l'Ancien Testament, comme Salomon, il parle de la science. C'était pas la même chose. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on entend par le mot « science »? C'est l'ensemble cohérent des connaissances relatives à certaines catégories de faits. Donc, c'est un ensemble de connaissances qu'on peut acquérir par rapport à des faits, des objets, des phénomènes, donc toutes sortes de choses qu'on peut étudier, qui obéissent à des lois. Donc, la science prend pour acquis qu'il y a des lois naturelles écrites dans l'univers, et ou vérifiées par des méthodes expérimentales. Donc, des fois, on n'arrive pas nécessairement à déterminer quelle est la loi derrière cela, mais on peut expérimenter des phénomènes et en voir les résultats et en prendre note. Parfois, on peut déceler des lois sans être capable de les expérimenter non plus. Mais c'est un ou l'autre. Donc, contrairement à la croyance qu'il n'y a pas de vérité absolue, il y a certains athées qui croient cela, il n'existe aucune vérité absolue. Mais en réalité, l'activité scientifique prend pour acquis qu'il y a une vérité. On n'a pas le choix. Et elle s'efforce de la trouver dans les différents domaines d'études. Donc, si on arrive à la conclusion que dans telle circonstance, telle condition va produire tel effet, puis que c'est une loi, on prend pour acquis que cette loi-là va être vraie n'importe où on se trouve dans l'univers et n'importe quand. Donc, la science prend pour acquis que ce qui est vérifiable, ce qui a été démontré, va rester vrai. La science, pour qu'elle fonctionne, finalement, prend pour acquis qu'il y a des lois écrites dans l'univers. Donc, il y a des vérités, il y a des erreurs aussi. Puis, bon, ça arrive souvent que les scientifiques vont arriver à la conclusion qu'ils s'étaient trompés sur telle ou telle théorie et vont les remettre en question. Il y a des théories qui tiennent bon, elles sont considérées comme solides, d'autres sont remises en question. Il y a la Bible qui révèle Dieu, bien sûr, c'est Dieu qui a écrit la Bible, c'est pour ça qu'on l'appelle la parole de Dieu, et qui révèle Dieu et son œuvre, son activité, mais l'univers aussi révèle Dieu. C'est comme ce qu'on appelle la révélation générale, la révélation qui est accessible à tous. On voit ça, par exemple, dans le psaume 19, qui dit « Les cieux racontent la gloire de Dieu. L'étendue céleste annonce l'œuvre de ses mains. » Donc, en regardant les cieux, en levant les yeux au ciel, en voyant le soleil, les étoiles, les nuages, les grands phénomènes, la neige, les tempêtes, le doux vent et toutes les créatures aussi de Dieu, ça annonce, finalement, ça déclare que c'est l'œuvre des mains de Dieu et ça le glorifie. Le jour en donne instruction au jour, la nuit en donne connaissance à la nuit. Ce n'est pas un langage, donc on n'est pas en train de lire un texte dans le ciel, ce ne sont pas des paroles, leur voix n'est pas entendue, mais leur trace apparaît sur toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a placé une tente pour le soleil. Puis le psaume 19 continue en parlant de la loi de l'Éternel, qu'elle est parfaite. Donc on voit comme les deux révélations, la révélation générale et la révélation spéciale dans un même psaume. Il y a bien sûr Romains 1, que vous connaissez sûrement, où Paul déclare que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, contre toute action injuste, méchante sur la terre, toute injustice des hommes qui, entre autres, retiennent injustement la vérité captive. Donc, il y a une vérité, mais il y a certains hommes qui la retiennent captive, ils la retiennent cachée. Ils ne veulent pas l'avouer, ils ne veulent pas non plus donner raison à ceux qui disent qu'il y a une vérité. Pourquoi que la colère de Dieu est sur tous les hommes qui retiennent cette vérité captive-là? Parce que ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. C'est visible. Dieu l'a leur manifesté. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient fort bien depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Et il va continuer en disant que finalement, à cause de cela, personne n'est excusable. Personne ne peut dire « Ah, mais moi, je ne connaissais pas Dieu. » Non, Dieu s'est révélé dans la nature. Il suffit d'observer l'univers et on sait qu'il y a un créateur. On peut même venir qu'à comprendre qu'il est parfait, ce créateur-là, qu'il est tout-puissant, qu'il est d'une intelligence infinie, qu'il est bon envers nous puisqu'il a créé quelque chose qui nous est agréable, qui prend soin de nous. Il y a une foule de choses qu'on peut découvrir sur Dieu et entre autres qu'il est digne d'être honoré, vénéré. Et malheureusement, les hommes en général, même ceux qui avouent qu'il doit y avoir un Dieu, beaucoup ne l'adorent pas comme ils le devraient. Mais l'existence du Créateur, ou d'un « intelligent design », comme certains scientifiques disent, d'un design intelligent, l'existence d'un Créateur est tellement évidente qu'il faut s'aveugler soi-même pour le nier. C'est ce que Psaume 14 dit, « L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu ». C'est une folie. Et si on part avec le présupposé qu'il n'y a pas de Dieu, ça va influencer notre manière d'observer même le monde. Et ça va teinter notre science. Et ça se peut qu'on arrive à des conclusions erronées. Pas forcément toutes nos conclusions, mais c'est insensé à la base de croire qu'il n'y a pas de Dieu. C'est un mauvais point de départ. Il y a beaucoup de grands scientifiques qui ont été convaincus de l'existence de Dieu. Surtout ceux qui ont observé l'univers, ou qui ont observé les choses microscopiques, mais qui ont pris la peine d'étudier, dont des connus comme Pascal, Newton, Einstein, le maître, Tesla, on ne parle pas du fabricant de voitures, Thomas Edison aussi. Mais la liste est longue, et beaucoup diraient « Ah, mais c'était des croyants! » C'est vrai, mais il y a peu d'entre eux qui ont adoré Dieu comme ils auraient dû le faire. Plusieurs sont arrivés à la conclusion qu'il y a un Dieu, mais ils demeurent coupables de ne pas l'avoir adoré comme Dieu le veut, comme il le mérite, et Dieu veut qu'on l'adore par son Fils, par Jésus. C'est là que ça fait toute la différence. Mais c'est quand même impressionnant d'avoir une longue liste de scientifiques qui ont été forcés de reconnaître l'existence de Dieu, dont un qui est connu ici au Québec, Hubert Reeve. C'est impressionnant, mais j'ai lu quelques livres de Hubert Reeve, puis il reconnaît qu'il doit y avoir un designer intelligent, mais il refuse de l'adorer, il refuse de tomber dans le panneau de la foi chrétienne, selon lui. C'est malheureux. Mais, en tout cas, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais si la Bible est correctement interprétée, parce qu'il existe des passages qui sont plus difficiles à interpréter, mais si elle est interprétée correctement selon la révélation de Dieu, selon l'intention de Dieu dans les différents textes, elle va être en accord avec notre observation de l'univers si on l'étudie correctement, parce qu'on peut se tromper aussi en observant l'univers. Mais si on est dans le bon, là, si on ne se trompe pas en observant un fait, et qu'on ne se trompe pas en observant ce que la Bible dit, normalement, ça devrait concorder, puisque les deux sont comme un livre de Dieu, une révélation de Dieu. Bon, un exemple historique que vous avez sûrement déjà entendu, mais à l'époque de Galilée, la position officielle de l'Église catholique, c'était que la terre était ferme, immobile, et le soleil, la lune tournaient autour de la terre. Mais Galilée, en observant le système solaire, s'est rendu compte que, oh non, c'est la terre qui tourne autour du soleil. Et il a été déclaré hérétique. Mais en réalité, ce n'est pas Galilée qui était dans l'erreur ici. C'était l'interprétation officielle de l'Église catholique qui était dans l'erreur. Bon, même si aujourd'hui, il y a quand même un pourcentage de la population qui croit que la Terre est plate, mais c'est quand même minime. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais ça a quand même été prouvé de multiples façons que la Terre est ronde. Si on est en Colombie-Britannique puis on veut aller en Chine, on sait qu'on n'est pas obligé de voler vers l'est, on peut voler vers l'ouest. On peut faire le tour par l'autre bord. Pour cela, on revient à l'interprétation de Genèse 1. Je vous demande de le lire avec moi ce matin. On va se rafraîchir la mémoire. Genèse, chapitre 1. « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres, et Dieu appela lumière jour, et il appela ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut un jour. Et Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux pour séparer les eaux des eaux. Dieu fit donc cette étendue. Il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus. Et il en fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut un deuxième jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel s'amassent en un seul endroit et que la partie sèche apparaisse. Et il en fut ainsi. Et Dieu appela terre la partie sèche. Et il appela mer la masse des eaux. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre se couvre de verdure, d'herbes porteuses de semences, d'arbres fruitiers, donnant sur la terre des fruits selon leur espèce, et en eux leurs semences. Et il en fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe porteuse de semences, selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leurs semences selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Et il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut un troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des astres dans l'étendue céleste pour séparer le jour et la nuit, que ce soit des signes pour marquer les temps, les jours, les années, que ce soit des astres dans l'étendue céleste pour éclairer la terre, et il en fut ainsi. Dieu fit les deux grands astres, le grand pour dominer le jour et le petit pour dominer la nuit. Il fit aussi les étoiles, et Dieu les plaça dans l'étendue céleste pour éclairer la terre, pour dominer sur le jour et sur la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut un quatrième jour. Dieu dit que les eaux se mettent à grouiller d'êtres vivants sur la terre, des oiseaux volent sous l'étendue céleste. Et Dieu créa, selon leur espèce, les grands monstres marins, tous les êtres vivants qui nagent et dont les eaux se mirent à grouiller. Il créa aussi tout oiseau ailé, selon son espèce, et Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant, « Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez les eaux de la mer. » Et que les oiseaux se multiplient sur la terre. Il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut un cinquième jour. Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bétail, reptiles, animaux terrestres, chacun selon son espèce. Il en fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles du sol selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, homme et femme, il les créa. Dieu les bénit Et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui rampe sur la terre. » Dieu dit, « Voici que je vous donne toute herbe porteuse de semences et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre fruitier porteur de semences, ce sera votre nourriture. À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui rampe sur la terre et qui a souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. » Et il en fut ainsi. Dieu vit alors que tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut un sixième jour. Et ainsi furent achevés le ciel et la terre et toute leur armée. Le septième jour, toute l'œuvre que Dieu avait faite était achevée, et il se reposa au septième jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, car en ce jour, Dieu s'était reposé de toute l'œuvre qu'il avait créée. Ça reste un des passages les plus impressionnants dans la Bible, hein, n'est-ce pas? On va commencer par regarder une interprétation de ce passage-là qui est dite l'interprétation littérale. Ensuite, on va regarder quelques façons de l'interpréter de manière littéraire. Donc, littéralement, les partisans, les chrétiens qui croient qu'on doit l'interpréter de manière littérale sont appelés parfois les partisans de la terre jeune. C'est qu'ils croient que la terre est un peu plus âgée que de 6000 ans. Donc, quand je dis « il », je ne suis pas en train de m'exclure à cela, là. Les chrétiens de position littérale vont dire que Dieu a créé l'univers en 6 jours, littéraux, de 24 heures, et précisément dans l'ordre que c'est décrit dans Genèse 1. Et ça arrive souvent qu'ils vont s'opposer, pas tous, mais ils vont s'opposer aux conclusions scientifiques d'un univers qui est âgé de milliards d'années. On dit ça ne se peut pas, puisque la Bible déclare qu'il y a à peu près 6000 ans, Dieu l'a créé en 6 jours. Donc, il ne peut pas être âgé de plusieurs milliards d'années. Un premier argument pour cela, c'est que les 6 jours, ici, doivent être littéraux, doivent être compris de manière littérale, parce que chacun se termine par « il y eut un soir, il y eut un matin ». Ça semble indiquer que Dieu veut vraiment qu'on comprenne que c'était un jour comme nous on le connaît, un jour de 24 heures, et non pas simplement un concept, mais vraiment d'une journée comme on la connaît. Et ça, c'est répété pour chacun des jours de la création. Un deuxième argument qui est avancé parfois, même souvent, c'est que les commandements qui ont été donnés par Dieu à son peuple d'Israël concernant la semaine de travail, qu'ils doivent travailler 6 jours et se reposer le septième, c'est en référence à la semaine de la création. Donc, Dieu s'est donné en exemple. On lit ça dans Exode 20. « Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le septième jour est le sabbat de l'Éternel ton Dieu. » Car en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat, qu'il a sanctifié. Donc, si on avait seulement Exode 20, là, ici, là, on devrait vraiment conclure que c'est 6 jours littéraux. En tout cas, c'est le message qui semble être envoyé, puisque Dieu commande à son peuple de travailler 6 jours de 24 heures littéraux, en suivant son exemple des 6 jours de création. Un troisième argument qu'on voit parfois, c'est que le Nouveau Testament semble prendre pour acquis aussi que tous les événements dans Genèse 1 à 11, qui incluent la chute de l'homme aussi, la tentation par le diable sous forme d'un serpent, le déluge, la tour de Babel, la dispersion des nations selon leur langue et leur race, que tout ça, ce sont des événements littéraux. Ce n'est pas chacun des événements qui est repris dans le Nouveau Testament, mais la création, le déluge, c'est montré comme, on en parle comme si on prend pour acquis, c'est arrivé de manière littérale, et pas seulement sous forme figurée ou imagée. C'est Jésus qui dit, lorsque des pharisiens viennent lui dire, est-ce qu'on peut divorcer? Dans quelles circonstances on peut divorcer? Et Jésus répond, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Donc ici, Jésus se sert d'un passage qui était bien connu et qui était compris comme étant littéral pour appuyer son point que l'homme et la femme ne devraient pas se séparer. Un quatrième argument. La Bible aussi semble annoncer pour le futur une nouvelle terre, de nouveaux cieux, un nouveau futur univers qui devrait être créé rapidement. En tout cas, c'est ce qui nous semble. Quand on lit 2 Pierre 3, il dit « Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu. » Le jour de Dieu va arriver. Où les cieux enflammés se dissoudront, où les éléments embrasés se fondront. Donc, l'univers qu'on connaît sera comme passé au feu, retourné à la forge pour être refait. Nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux, une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, efforcez-vous d'être trouvés par lui sans tâche. Donc, tandis qu'on est encore vivant sur terre, en attendant ce jour-là qui va arriver, on s'efforce d'être sans tâche, de marcher dans la justice. Puisqu'on sait que l'univers va être détruit pour être renouvelé comme un univers où règne la justice. Mais on a vraiment l'impression que quand ça va arriver, ça va se passer vite, là. Dieu va zapper l'ancien univers puis il va en refaire un. On n'a pas l'impression qu'il va prendre des milliards d'années pour créer le nouvel univers. Donc, c'est un argument qui est amené pour dire si Dieu peut créer les nouveaux cieux et la nouvelle terre en un instant, le jour de Dieu, pourquoi est-ce qu'il aurait dû prendre des milliards d'années pour créer le premier ciel et la première terre? Un cinquième argument. Bon, ceux qui avancent un âge très long de la terre vont se servir comme argument aussi de la découverte de fossiles d'animaux décédés, d'animaux morts, il y a des milliers, des centaines de milliers d'années, des millions d'années, voire. Mais on peut, en tout cas c'est un argument qui est avancé ici, que ça peut poser problème si on a comme théologie, comme croyance qu'il n'y avait pas de mort avant la chute. Mais si on découvre des millions d'animaux qui étaient morts dans le passé et que Adam est arrivé seulement il y a 6000 ans, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de morts avant la chute de l'homme, avant que le péché soit introduit dans le monde. Donc ça peut entrer en contradiction avec ce que l'on croit. Donc pour certains, de position créationniste, ils vont rejeter ça pour dire les fossiles qu'on trouve, c'est pas vrai, ils sont des millions d'années plus âgés. Ça, on va revenir là-dessus peut-être dans une prochaine étude. Mais c'est un des arguments qui est avancé. Maintenant, il existe aussi l'interprétation littéraire. Bon, c'est proche de littéral, des fois ça porte à confusion, mais c'est qu'il y a un souci ici de creuser plus à fond le style du passage, le style de Genèse 1. Et ça regroupe plusieurs interprétations. Si vous fouillez dans les livres ou les conférences ou sur Internet, vous allez voir qu'il existe beaucoup d'interprétations différentes. Mais ce qu'elles ont en commun, c'est qu'elles comprennent toutes que Genèse 1 ne doit pas être compris de manière littérale. Là, ici, je parle de chrétiens. Je ne parle pas ici de philosophes, là, mais des chrétiens évangéliques qui croient à l'Évangile, au salut en Jésus-Christ. Qui étudient la Bible le plus sérieux possible, mais quand ils arrivent à Genèse 1, basés sur plusieurs observations, ils arrivent à la conclusion que ce texte-là ne doit pas être pris de manière littérale. Le style littéraire de Genèse 1 et 2, ça indiquerait que ça ne doit pas être compris de manière littérale. Et il y a plusieurs passages dans la Bible où on convient tous que ça ne doit pas être pris de manière littérale. Par exemple, dans Job 9:6, il est question que Dieu fait trembler la terre sur sa base, et que ses colonnes sont ébranlées. C'est une manière figurée de parler de la stabilité du monde dans lequel on se trouve. Et peut-être, certains croient même qu'à l'époque, les gens croyaient aussi, c'était une connaissance, une croyance générale, que la terre était plate, avec un dôme, qui est le firmament, où les étoiles avaient été posées, et qu'il y avait une couche d'eau aussi, comme l'étendue des eaux du dessus. Il y avait de l'eau sous la terre aussi, dans les abîmes, c'est pour ça que les gens, quand ils creusaient des puits, ils voyaient de l'eau sortir. Donc, c'était une compréhension cosmologique là, de l'époque qui était répandue. Je ne sais pas si c'est ça dans Job que l'on voit, mais on sait ici que la terre n'a pas de colonne, n'a pas de pilier. Et Dieu n'est certainement pas en train de vouloir nous induire en erreur par une parole dans la Bible. C'est un langage figuré ici pour montrer que la terre, aussi solide qu'elle soit, on dit qu'il n'y a rien de plus solide qu'une montagne, bien Dieu peut l'ébranler d'une simple parole, d'un claquement de doigts. Si Dieu est en colère, là, il peut tout détruire, là, ce que l'on croit être le plus stable. Donc, c'est le message théologique derrière qui est plus important que le fait littéral. Si. On sait que la terre n'est pas sur des piliers. On sait, par exemple, dans les psaumes disent que les arbres tapent des mains, les collines bondissent. On sait que c'est un langage figuré. Donc, c'est la même manière d'interpréter que certains voient dans Genèse 1 et 2 un langage figuré. Peut-être pas pour tous les éléments, mais pour certains éléments. Et c'est une position, donc là, c'est pas tous les chrétiens qui adoptent cette position-là, c'est pas le cas de tous les chrétiens, mais pour plusieurs, c'est une manière d'accepter les conclusions scientifiques qui parlent d'un univers qui est vieux. Mais c'est pas seulement des chrétiens qui veulent s'accorder avec les découvertes scientifiques, qui vont prôner une interprétation non littérale, là. Parce qu'il y avait aussi des théologiens, on a des exemples comme Augustin, Irénée, Justin Martyr, qui était la génération tout de suite après Jésus, là, parmi les pères de l'Église. Ils ne croyaient pas à une interprétation littérale de Genèse 1. Ce n'était pas parce qu'il y avait la science, là. C'était avant l'invention des télescopes. Ce n'était pas à cause d'une intention de s'accommoder avec les scientifiques. C'est parce qu'ils voyaient comme des incohérences dans le texte si on l'interprète de manière littérale. On va voir quelques exemples plus tard. Et Augustin lui disait, c'est une manière imagée que Dieu nous le présente, mais en réalité, je suis convaincu que Dieu l'a créé en un instant. Bon, il y a tout un développement pour dire ça, là. Mais il se basait sur d'autres textes de la Bible aussi. Un premier argument pour cela, pour dire que c'est un style figuré, littéraire, c'est qu'il semble être de manière évidente là, que l'œuvre de création qui est montrée ici en 6 jours, ça sert à montrer deux aspects de l'œuvre de Dieu. Deux aspects de l'œuvre de Dieu que Dieu veut qu'on observe. C'est comme deux signatures de Dieu. Que lorsqu'on les voit dans l'univers, on sait, ah, c'est vrai, c'est parce que c'est Dieu qui l'a fait, que c'est comme ça. Et là, cette signature-là est basée sur le point de départ de l'univers. Comme au jour zéro, là, avant les 6 jours de création, il est dit que la terre était informe et vide. Tohu-bohu. Donc, le chaos et le vide. Sans forme et non rempli. Donc, Dieu va régler cela, qui est comme une situation non acceptable. Et Dieu va la rendre acceptable. C'est comme si le point de départ, c'est quelque chose qui n'est pas bon, et Dieu, pour régler ce problème-là, informe et vide, va le rendre bon. Donc, l'action de Dieu ici est présentée en 3 jours où il forme la création, il sépare, il prépare différents environnements, donc pour aider le problème que c'était informe. 3 jours où il forme et 3 jours où il peuple, il remplit pour aider le problème que c'était vide. Et ça semble évident que ce n'est pas une coïncidence qu'il y a une correspondance entre les deux groupes de trois. Là. Les 3 jours pour remplir, pour former, les 3 jours pour remplir, ça concorde. Le jour 1 où il sépare la lumière des ténèbres concorde avec le jour 4 où il peuple le ciel, le soleil, la lune, les étoiles, l'armée céleste. Au jour 2 où il sépare l'eau et l'air, donc l'atmosphère qui est séparée de l'eau, ça coïncide avec le jour 5 où il peuple la mer et l'air avec les oiseaux, les poissons. Le jour 3, il sépare l'eau du sol. Là, il prépare la terre, le sol sec, incluant la végétation qui va servir de nourriture. Et au jour 6, il peuple le sol d'animaux terrestres, de reptiles, et même qu'il met l'homme et la femme. Donc, ça semble être comme un cadre qui avait été annoncé, de dire que la terre était informe et vide. Dieu dit, voici comment je règle ça. Je forme et je remplis. Donc, ça serait la signature de Dieu qu'à chaque fois qu'on observe l'univers et qu'on est émerveillé de voir comment c'est bien fait, c'est bien formé. Comme David disait, je te loue que je suis une créature si merveilleuse. Mais quand on regarde que c'est bien fait, c'est la signature de Dieu, c'est son œuvre. Et lorsqu'on est émerveillé de voir combien c'est rempli, de voir toute une volée d'oiseaux, là, ou de voir qu'on compte les étoiles, combien il y en a, comment c'est nombreux, là, on est émerveillé de voir toute la diversité et combien c'est rempli, ce serait une autre signature de Dieu, que ce n'est pas simplement le fruit du hasard. Un deuxième argument pour dire que ça serait d'un style littéraire, qui n'est pas littéral, c'est qu'il y a beaucoup de présence de chiffres symboliques, entre autres. Il y a d'autres symboles aussi, mais juste les chiffres, c'est déjà assez impressionnant. Et ces chiffres-là sont repris dans toute la Bible pour parler de Dieu, de sa volonté, de sa sainteté, de la Trinité. Par exemple, 10 fois, on lit l'expression « Dieu dit ». 3 fois, c'est pour, en ce qui concerne l'homme, Dieu dit, et 7 fois, en ce qui concerne le reste, des créatures, de la création de Dieu. Dans les ordres que Dieu déclare, parce que Dieu est créé par sa parole, trois fois, il y a l'expression « que telle chose soit » pour ce qui est dans le ciel, et sept fois, il y a des verbes différents pour ce qui est sur la terre. 10 fois, on a le verbe « faire », « façonner ». 10 fois aussi, il est écrit « selon son espèce ». 3 fois, Dieu bénit. Donc, 3 fois, il dit « soyez bénis, là, remplissez la terre ». 3 fois dans ce passage. À 3 endroits dans le texte aussi, il est question du verbe « créer ». Et la 3e fois, le verbe « créer » est répété 3 fois. Et là, c'est en ce qui concerne la création de l'homme. 7 fois, c'est écrit « il en fut ainsi », selon la parole de Dieu. 7 fois, c'est écrit « Dieu vit que cela était bon ». Et bien sûr, il y a 7 jours de la création, donc le chiffre 7 revient souvent. Et lorsqu'on étudie le texte original en hébreu, le nombre de mots aussi, est aussi impressionnant. Le premier verset, la première phrase contient 7 mots. L'introduction, les versets 1 et 2, contient 3 fois 7 mots. Bon, dans la création, les six jours de création, c'est 59 fois 7 mots. C'est le multiple 7 qui revient. Le jour 7, le jour du repos, c'est 5 fois 7 mots, pour un total de 67 fois 7 mots. En tout cas, il semble, si Moïse n'était pas conscient, si ce n'est pas Moïse qui a voulu arriver à ces chiffres-là, c'est le Saint-Esprit qui l'a guidé, mais quand même, on voit l'apparition de beaucoup de nombres symboliques. Bon, c'est un argument qui est apporté pour dire que c'est un texte, avec d'autres éléments aussi, qui est en même temps une œuvre littéraire grandiose, et une forme de poésie. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas s'être passé littéralement comme c'est écrit. On le sait. Mais habituellement, c'est un argument qui est amené pour une interprétation au sens figuré. Un 3e argument, c'est que si on fait une lecture qui est purement littérale, il semble y avoir des incohérences. Bon, un créationniste qui est partisan de la Terre jeune va essayer de trouver des solutions pour régler ces incohérences-là, mais quand même, ça saute aux yeux. Premièrement, Dieu crée la lumière, et plus tard, il crée les sources de lumière. Il crée le soleil, la lune, les étoiles pour éclairer la terre. Mais il a créé les rayons de lumière avant que les sources existent. C'est pas que ça se peut pas, mais ça semble être incohérent, si on y va dans un ordre chronologique. Dieu dit que les astres qu'il crée servent à mesurer les jours, les époques, les jours de 24 heures. On sait qu'il y a un soir, qu'il y a un matin, à cause du soleil et de la lune, les astres qu'il a mis là pour marquer les jours, la nuit. Mais pourtant, le soleil et la lune sont créés seulement au 4e jour. Aussi, quand on arrive à la séquence de Genèse 2, où là, la vision est plutôt sur le jardin. Et il y a l'homme qui est créé, ensuite il y a les oiseaux du ciel qui sont créés, la femme est créée plus loin. Ça semble pas être dans le même ordre chronologique que Genèse 1. Ici, même ceux qui interprètent de manière littérale Genèse 1, la plupart vont dire que Genèse 2 doit être interprété de manière figurée. Et pourquoi pas Genèse 1 aussi? Un 4e argument qui est à avancer, c'est que les éléments du récit que Dieu a choisi d'inclure dans Genèse 1, parce que Dieu ne parle pas de tout, il ne parle pas comment il a formé les pics, les montagnes, les crevasses, ou comment il a formé la neige, ou les saisons. Dieu a choisi certains éléments qu'il manque dans son récit, et ça se trouve que tous ces éléments-là se retrouvent aussi dans des récits mythologiques de l'époque. Là, on doit dire tout de suite que Genèse 1 n'est certainement pas un mythe à cause de ça. Il y a certains chrétiens qui ont dit, bien, Genèse, c'est un mythe, comme tous les autres mythes. Mais non, si on est d'accord qu'il y a peut-être un lien à faire avec les récits mythologiques de création dans les autres peuples païens, c'est parce que Dieu s'en sert, il a présenté ça de cette manière-là pour réfuter les croyances païennes qui sont fausses. Donc, Dieu aurait choisi ces éléments-là à inclure dans son récit, pour justement montrer en quoi toutes ces fausses croyances-là étaient basées. Par exemple, les récits de Babylone et de l'Égypte présentent dans le récit de la création une foule de dieux qui sont impliqués dans la création. Mais dans Genèse 1, on voit qu'il y a un seul Dieu qui est unique. Même s'il est montré au pluriel, faisons l'homme à notre image, qui serait une indication de la Trinité, mais c'est un Dieu unique. Dieu créa le ciel et la terre. Dans les récits sumériens de l'époque aussi, selon eux, la matière a toujours existé. La matière est éternelle. Et il y avait aussi, au point de départ, une grande mer. C'était comme le matériau brut qui a servi à former l'univers. Mais dans Genèse 1, c'est clair, Tout est la création de Dieu, et Dieu a tout créé à partir de rien. Même un élément aussi basique là, que la lumière, c'est Dieu qui l'a créé. C'est Dieu qui a créé l'eau. C'est Dieu qui a tout créé. Dans les récits de Babylone, il y a des monstres marins qui sont finalement des puissants dieux. Les grandes pieuvres, les baleines, les requins, les léviathans, là, bien, tout ça, c'est des dieux. L'abîme était là aussi, et l'abîme lui-même est un dieu. Et ils sont tous impliqués dans la création du monde. Mais on sait que dans Genèse 1 que tout a été créé par Dieu. Et Dieu prend même la peine de dire que les monstres marins sont sa création. Même l'abîme. Bon, c'est ça. On pourrait continuer là-dessus, mais il y a plusieurs interprétations, plusieurs arguments encore pour l'interprétation littéraire. Juste une parenthèse où je pense qu'il est important de souligner qu'il faut faire attention de ne pas condamner trop rapidement ceux qui ne sont pas de la même position que nous. Et parfois, même si c'est une position qui est nouvelle, puis on peut peut-être être choqué, mais il ne faut pas condamner trop vite. Et il y a des préjugés qui sont à éviter concernant les chrétiens d'une autre position. Par exemple, ceux qui croient que la Terre est vieille, qu'elle aurait des millions d'années. Il y en a qui pensent que, automatiquement, ces gens-là, ces chrétiens-là, ils font des compromis sur leur foi. Finalement, ils sont prêts à croire Dieu, mais quand ça arrive à Genèse 1, ils ne sont plus prêts à croire, que c'est un manque de foi. Et qu'ils le font seulement pour s'accommoder avec les scientifiques athées, pour ne pas être ridiculisés par eux, ne pas être qu'on se moque d'eux. Et s'il continue dans cette voie-là, il sera en danger finalement un jour d'abandonner toute la Bible. On doit avouer que c'est sûrement le cas de certains. Il y en a sûrement qui sont aux prises avec le doute et aux prises avec la pression de leurs collègues peut-être, de ceux qui travaillent dans les universités, les chercheurs. Mais ce n'est certainement pas le cas de tous les chrétiens qui croient à une terre âgée. Et l'inverse est vrai. Ceux qui croient à une terre jeune, à une interprétation littérale de 6 jours de 24 heures, ils ne sont pas automatiquement orgueilleux, anti-intellectuels, anti-rationnels. Et on les a même accusés parfois que leur interprétation, là, ils y tiennent tellement qu'ils sont devenus une idole. C'est plus important même que la Bible elle-même. C'est comme si leur confession de foi, leur déclaration est devenue une idole. Bon, c'est peut-être le cas de certains, mais c'est certainement pas la majorité. Hein. Donc, on ne doit pas sauter aux conclusions et de tout de suite condamner, juger celui qui ne partage pas la même interprétation que nous. Il y a des points qu'on est tous d'accord. Peu importe la manière dont on l'interprète, Genèse 1, on arrive aux mêmes conclusions théologiques. Et ça, c'est surtout ça qui est important de le souligner et qui nous distingue de ceux qui ne croient pas en l'Éternel, au Dieu de la Bible. Il y a un seul Dieu qui a tout créé. Tout. Donc, avant tout ce qui existe, il y avait seulement Dieu. L'univers a eu un commencement. Il y a beaucoup de philosophies de religion qui croient que l'univers est éternel, a toujours existé. Ce n'est pas ce que la Bible dit. L'univers a eu un début. Tout ce que l'on voit dans l'univers, il n'y a rien de cela qui est un Dieu, qui est divin. Tout est créature, création de Dieu. Donc, le seul être qui mérite d'être adoré, c'est le Créateur. Et si on adore une de ces créatures, on est forcément dans l'erreur et c'est un péché. Tout est ordonné par Dieu. Il n'y a rien qui est laissé purement au hasard que Dieu n'avait pas prévu. Tout a été déclaré, ordonné, décrété. Dieu a formé à partir du chaos, il a donné forme et il a rempli à partir du vide. La création, lorsqu'elle était terminée, elle était entièrement bonne et l'humanité était très bonne. Finalement, la création a été préparé pour que l'homme y habite en place d'honneur. Donc, peu importe notre position, quand on lit Genèse 1, on arrive à ces mêmes conclusions. C'est l'enseignement théologique qui est important. Bon, on arrive proche de la fin du cours. Je ne sais pas si on a le temps de continuer un petit peu, mais on va le voir la prochaine fois. Bon, on va prendre 5 minutes. Sur plusieurs points, l'astrophysique, donc les astrophysiciens, donc ça, c'est plus que l'astronomie, c'est pas seulement l'observation, là, mais c'est les outils de mesure de la science moderne, là, confirment la Bible. Donc, on ne doit pas rejeter tout en bloc s'ils arrivent parfois des conclusions avec lesquelles on n'est pas d'accord. Sur plusieurs points, l'astrophysique confirme la Bible. Premièrement, on découvre, puis on vient avec une assurance qu'il y a des lois naturelles écrites dans l'univers qui sont respectées toujours. Peu importe où on se trouve dans l'univers, peu importe à quelle époque on se trouve, elles demeurent vraies. On peut les mesurer, et même en observant la lumière qui provient de loin, on peut même mesurer des événements qui se sont passés dans le passé, même lointain, et on, on, on se rend compte que les mêmes lois demeuraient. Bon, c'est sûr qu'un scientifique qui est athée ne va pas, va simplement dire qu'il y a une loi. Il ne se préoccupe pas de savoir qui a écrit cette loi-là. Mais nous, on sait que ça vient de Dieu. Et Dieu le déclare dans Jérémie 33. « Ainsi parle l'Éternel. Si je n'avais pas fait mon alliance avec le jour et avec la nuit, si je n'avais pas établi les lois des cieux et de la terre, alors je pourrais rejeter la descendance de Jacob et de David, mon serviteur. » Donc Dieu voulait rassurer son peuple, « Je ne vais pas vous abandonner ce que j'ai promis, je vais l'accomplir un jour, là, ceux qui ont été déportés, expatriés, je vais les ramener. » C'est aussi sûr que vous voyez que les lois de l'univers sont respectées. Les saisons se succèdent, le jour, la nuit se succèdent. J'ai fait une alliance, j'ai écrit mes lois, la loi du ciel et de la terre. Donc, je crois qu'ici, Dieu se réfère à toutes les lois invisibles qui maintiennent l'univers en place et qui le gardent en ordre. Donc, la science observe que les mêmes lois existent partout, en tout temps. Par exemple, la loi de la gravité, on peut la définir de différentes manières, plus précises ou moins précises, mais elle demeure vraie. Et la découverte avec les télescopes qu'un univers est extrêmement vaste, même à l'époque où les psaumes ont été écrits, là, ils ne pouvaient pas s'imaginer à quel point c'était grand. Que l'univers est composé de milliards de galaxies, et chacune de ces galaxies-là contient des milliards d'étoiles. Les étoiles, c'est à peu près la grosseur du Soleil, il y en a qui sont plus grosses que cela. On ne peut pas s'imaginer, on ne peut pas concevoir dans notre esprit la grandeur de l'univers. Il y a certains athées qui se moquent, ils disent « Ouais, votre Dieu, lui, il est maître seulement de la Terre. » Mais on voit que l'univers est beaucoup plus grand. Mais ce n'est pas ce que la Bible dit. Dieu est maître de l'univers entier. Donc, quand la Bible loue Dieu pour sa grandeur en observant l'univers, nous, on a l'impression qu'on peut le louer encore plus en découvrant à quel point son univers est grand. Donc, ça prend un nouveau sens quand on lit Psaume 8. « Quand je regarde tes cieux, l'ouvrage de tes mains, » À l'époque, il y avait seulement accès à regarder les étoiles, là. La lune, les étoiles que tu as établies. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? On se rend compte là, que la grandeur de la planète Terre à comparer à la grandeur de l'univers, là, c'est mini. Là. Puis nous-mêmes, sur la Terre, on est microscopique. Comment Dieu se soucie de nous? Ça montre tout l'amour qu'il a pour sa créature, pour l'humanité qu'il a créée, pour l'homme qu'il a fait à son image. Dans Psaume 103 aussi, on lit la bonté de Dieu qui est prêt, même en regardant la grandeur de l'univers, les étoiles qu'il a créées, tout ça, l'auteur est stupéfait de voir que Dieu est prêt à pardonner son péché, prendre la peine de le purifier, d'enlever son péché, tout aussi loin que l'Orient de l'Occident. Donc, à l'époque, pour eux, la grandeur de l'univers, c'est de l'Orient à l'Occident. On sait que c'est encore plus grand que ça, mais Dieu, la bonté de Dieu est plus grande que ça, sa grâce est plus grande encore. Ça nous aide à apprécier les qualités de Dieu. OK, on va se terminer avec cette page-là. Avant le développement de l'astrophysique, il y a beaucoup de gens qui concevaient l'univers comme étant infini, dans tous les sens, qui était fixe, stable, qui ne bougeait pas, qui n'était pas dynamique, et qui était éternel. Il y a beaucoup de gens qui le concevaient comme ça. Il y a des scientifiques aussi qui prenaient pour acquis ce modèle-là. En observant l'univers, ils sont plutôt rendus compte que l'univers est fini. Bon, vous serez plus ou moins d'accord avec cette affirmation-là, mais avec les télescopes, on a comme vu le bout de l'univers. On est capable de calculer la quantité de matière et d'énergie dans l'univers. L'univers n'est pas infini. En fait, c'est des philosophies ou des religions, même asiatiques, qui vont prôner beaucoup cela, parce qu'ils mettent l'univers comme étant un dieu, donc il doit être infini. Mais nous, on sait qu'il y a seulement le Créateur qui est infini. L'univers n'a pas la qualité du Créateur. L'univers est son produit. Il est fini en quantité d'énergie et dans ses dimensions. On a observé aussi, à l'aide des télescopes, que l'univers est en constante expansion. Bon, certains voient ici une référence à quand il dit dans la Bible que Dieu étend l'univers, ou il étend les étoiles comme une nappe. Mais l'univers est en constante expansion, puis les galaxies qui sont plus loin s'éloignent plus vite même. C'est comme s'il y avait une accélération. Donc, il n'est pas fixe, il bouge. Et, bon, ça c'est un sujet de débat, mais en calculant la vitesse qui est observable, si on fait marche arrière, c'est une des manières de calculer, bon, il doit y avoir un point central, parce que les galaxies s'éloignent les unes des autres. Et si on regarde combien de temps que ça prend à la vitesse qui se déplace, on arrive à un âge calculé de 13,8 milliards d'années. Donc, il a eu un début Et là, c'est le consensus scientifique mondial qui déclare « l'univers a connu un début ». On dirait qu'ils deviennent presque complices des croyants qui croient en un Dieu créateur. Ce n'est pas un univers qui a toujours existé, c'est un univers qui a été lancé. Bon, certains vont dire qu'il a été lancé par le hasard, ou par ils ne se soucient pas du tout de comment il a été lancé. Comme Hubert Reeve, que je lisais, il est fasciné par cela, de la manière dont l'univers a été lancé, mais il ne se préoccupe pas du tout de savoir s'il y a un lanceur. Il est fasciné par voir le mouvement de la balle, mais il ne se préoccupe même pas de savoir s'il y a un pitcher. Bon, c'est le cas malheureusement de la majorité des scientifiques qui ne sont pas croyants, mais le chrétien, lui, se réjouit de voir cela. On vient comme de prouver, et ça, c'est une manière, en reculant avec la vitesse de déplacement des galaxies, mais ça a été calculé de plusieurs manières, et on arrive toujours au chiffre de 13,8 milliards. On va revenir une prochaine fois sur une manière d'expliquer ça, surtout pour ceux qui ont une conviction que l'univers est jeune, avec une création en six jours littéraux. Donc, il y a différentes manières d'harmoniser, mais pour une prochaine fois. C'est bon? Puis, pour une prochaine fois aussi, on va s'attarder sur la question de l'évolution, qui est un sujet à part et qui est peut-être une coche plus complexe et plus problématique. Et on va terminer par un mot de prière. Merci Seigneur Dieu pour la science, pour l'intelligence que tu as donnée aux hommes, aux femmes qui font des recherches, qui nous permettent de découvrir de plus en plus ta création. On est triste de voir que plusieurs l'étudient et sont émerveillés de voir la beauté de ta création, mais ne croient pas en toi. Ouvre les yeux, Seigneur, de ceux qui étudient l'univers pour qu'ils te découvrent, qu'ils viennent à te chercher, à te trouver et à croire en ta parole. Si tu as créé l'univers, tu peux très bien t'être révélé à nous par tes prophètes et d'avoir envoyé ton Fils Jésus pour nous sauver. Permets que de nombreux scientifiques se convertissent, de nombreux étudiants aussi dans nos cégeps, nos universités se convertissent à l'étude de ton univers et viennent qu'à découvrir ta parole. Continue de nous édifier aussi par cette étude, chacun de nous. Au nom de Jésus, amen.